Vous écoutez RTL.
RTL
à la bonne heure.
Stéphane Bern.
Et nous sommes toujours en direct sur RTL avec notre invité que je vais vous présenter. Quand on jette un œil, au sens figuré bien sûr, parce que même si avec lui, ça peut se passer vraiment de jeter un œil. À sa bibliographie, on sent immédiatement une différence avec les romans à l'eau de rose de Barbara Cartland.
Ah bon?
Je donne des titres. L'âme du mal, Maléfice, La promesse des ténèbres. On sent bien qu'il n'est pas dans l'univers de Oui Oui ni des Bisounours. Il est devenu l'un des maîtres reconnus du polar à la française, tant il sait nous plonger dans les abîmes de l'âme humaine et nous faire éprouver le déferlement de violence qu'il couche plus volontiers sur le papier que dans sa vie, qu'on imagine d'un aimable écrivain. Lui que l'on n'imagine pas faire du mal à une mouche, quoique. Près de 5 millions de lecteurs s'arrachent depuis 15 ans, c'est quelques 20 romans traduits en 15 langues. Et à la veille de son 39e anniversaire, oui c'est demain, hein,
c'est vrai.
Demain, il est temps d'ausculter ce grand malade qui n'écrit que sur de dangereux psychopathes et transforme d'innocents coquelicots en fleurs du mal. Il publie chez Albin Michel Que ta volonté soit faite. Avec nous ce matin sur RTL, Maxime Chatham.
Merci, alors, quelle présentation. Mais je tiens juste à corriger une petite chose. Je suis un jeune papa. Donc, parlez du fait que je n'écris pas d'histoire pour enfants. Mais attendez-vous à ce qu'il bientôt il y ait une histoire pour enfants. Ce sera certainement l'âne trop découpé en morceaux parce que je n'en peux plus de lire les histoires des livres pour enfants. Mais peut-être un jour.
Non. Alors, c'est votre 20e roman, hein, que ta volonté soit faite. On arrive d'ailleurs un peu tard parce qu'il est déjà, entre le moment où il est sorti, vous en avez déjà vendu 150 000 exemplaires.
Ouais.
Ça va très vite avec vous.
J'y suis pas pour grand chose, c'est les lecteurs qui ont envie de se faire peur.
À votre avis, qu'est-ce qui attire les lecteurs?
La même chose qui fait que les fêtes foraines ont un succès fou depuis très longtemps, les parcs à thème avec des attractions à sensations, les films qui font peur. On a besoin tous au quotidien de temps en temps de tester nos limites, de savoir où sont nos propres limites, nous permettent finalement au quotidien de savoir un peu qui on est, ce qu'on fait, etc. C'est un jeu initiatique et puis c'est quelque chose qu'on a besoin de sous forme de repère de temps en temps. Donc on va se jeter une petite dose d'adrénaline avec un film, avec une série, avec une maison hantée ou des montagnes russes, et pourquoi pas de temps en temps avec un roman qui va repousser nos propres limites
Il y a quand même une délectation, j'imagine, à écrire des histoires aussi épouvantables. Quand par exemple, il y a des scènes avec des animaux qui me...
La première scène est dure.
Mais vous prenez du plaisir, expliquez-nous.
Alors, je prends aucun plaisir, surtout à ce moment-là. Mais vous savez, vous mettez en scène la mort d'un animal, ce qui est le cas dans le premier chapitre. Oui. Les gens me parlent que de ça. Je comprends pourquoi, hein, je mets après des scènes abominables de viol, etc. pour expliquer un personnage.
Moins grave.
Et on en parle
animal.
Moins.
Vous touchez un animal. Ils ont eu tellement peur au premier chapitre qu'ils ne sont pas allés plus loin.
Non.
C'est vrai.
Si vous dites mon chien est mort, tout le monde s'est effrayé. Je lui ai dit mon fils, c'est pas pour lui.
Mais c'est pas totalement faux. Je trouve que c'est pas. On est dans une société et alors pour le coup, moi je vis entouré de bêtes, j'ai des chiens, des chats, etc. Donc je le comprends, mais c'est quand même parfois un peu paradoxal. Oui, tous vivants.
Pas tous. Parce que je veux pas.
Oui, mon bureau est un peu particulier.
Vous en avez empaillé quelques-uns.
Ah bah voilà.
C'est loup-garou, momie, on est dans une autre catégorie d'animaux. Mais je crois qu'il y a quand même quelque chose d'assez assez particulier dans cette société où en effet c'est ce que vous venez de souligner Patrice, c'est-à-dire vous parlez d'un animal mort, on est tous outrés, d'un enfant, c'est un peu moins problématique. Et ce livre-là pose ces questions-là, notamment cette fin qui est un peu particulière.
On n'en dira pas plus.
Mais qui justement renvoie le lecteur à ses propres contradictions, ses propres limites et sa propre fascination pour ce type de roman, pour le mal, pour le crime et finalement pour des histoires parfois qui nous bousculent, parce que c'est le but de ce livre-là, c'est de nous bousculer, de pousser un peu plus loin nos propres repères.
Et justement, c'est une fin qu'on ne va pas révéler, tout à fait révolutionnaire. Vous avez fait plaisir aussi.
Alors là, pour le coup, j'ai pris plaisir. Là, c'est vrai que cette fin-là, ça fait plus de 15 ans que je l'ai en tête. Simplement, je ne savais pas comment la mettre en scène sans que ce soit... Je voulais pas qu'on arrive à la fin, que les gens se disent « c'est nul, c'est pas possible une fin comme ça ». Et il m'a fallu 15 ans pour comprendre qu'il y avait une solution. Et l'a trouvé. Et bon, je peux pas, c'est difficile de.
Parce que j'ai pas compris.
En fait, vous avez écrit ce roman juste pour avoir le plaisir d'écrire la fin.
En partie, oui. Interpeller le lecteur sur un aspect très particulier de la lecture de romans policiers et sur la quintessence même de ce qu'est le roman policier.
qui d'ailleurs, le narrateur le dit dès le début, oui. Il va y avoir une fin révolutionnaire.
Oui. Parce que c'est vrai que dans un polar, sinon, c'est la question, c'est toujours la même. Qui a tué,
oui. Exactement. Qui a tué. Et là, j'avais envie de changer un peu.
De changer un peu,
ouais,
oui.
Exactement.
C'est pas mal.
Ouais. Mais alors, vous me demandiez, est-ce que je prends plaisir dans les scènes un peu dures? Non, parce que moi, je crois, un peu comme un médecin légiste quand il travaille. Je suis technique. Il n'y a pas d'empathie avec les personnages, avec les situations. Moi, je suis dans les mots, j'essaie de trouver. J'ai un objectif, j'écris ma scène, je sais pourquoi je l'écris et où je veux emmener le lecteur, dans quel état d'esprit. Et à partir de là, j'essaie de tout construire avec des atmosphères, des champs lexicaux pour amener l'état d'esprit du lecteur particulièrement à cet état-là. Ça se fait petit à petit. C'est de la technique. C'est vraiment une sorte de dissection littéraire ou grammaticale pour obtenir un résultat. Mais il n'y a pas d'émotion vraiment précise à ce moment-là. Moi, je ne suis pas dans l'affect.
Très bien. Mais on va être dans l'affect maintenant parce que on va récompenser toute la semaine les auditrices et les auditeurs d'RTL qui, pour leur fidélité, en leur proposant un voyage à l'hôtel 4 étoiles L'Aigle des Neiges à Val d'Isère.
Qui ne sera pas empaillé, on le précise. L'aigle n'est pas empaillé.
Non mais vraiment, c'est bien, je veux dire. C'est à la fois une décoration assez moderne, je dois dire, mais extrêmement agréable. Je crois vraiment que tout le monde a envie d'y aller.
J'aime bien le moderne, mais
oui, parce que vous savez que moi à la montagne, je suis plutôt Heidi, quoi.
Ça va bien d'ailleurs, ça.
Non, mardi gras, c'était hier.
Alors, ça a changé, vous.
Le mercredi, on cherche une expression populaire. On dit d'une personne qui ne peut pas être partout à la fois ou qui ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. Qu'elle ne peut être à la fois au four et au moulin. Mais au fait, d'où vient cette expression? Alors téléphonez tout de suite au 3210 ou 74 900 avec le code BONHEUR en majuscule. A tout de suite au téléphone.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern.
À la bonne heure.
Sur RTL.
Et nous sommes toujours avec Maxime Chatham. Que ta volonté soit faite, cher Albin Michel. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont fait les coquelicots? Parce que c'est la signature du meurtrier.
Je présente toutes mes excuses à tous ceux et toutes celles qui adorent les coquelicots, oui. Car j'ai peur qu'après la lecture de ce livre, vous ne puissiez plus en voir un sans avoir quelques frissons.
Oui. Il y avait déjà la chanson, hein, c'était un peu comme ça, un petit coquelicot. Voilà.
Mais surtout, en Angleterre, c'est la fleur de la... toujours au mois de novembre pour le Remembrance. C'est la fleur qui était dans les champs au moment de la guerre de 14-18.
Et le coquelicot a une symbolique. Le coquelicot a une symbolique très très forte de par sa couleur, ce qu'il est, etc. Et le fait que c'est une fleur, à l'instant même où vous l'accueillez, elle est morte. Dans un roman comme ça qui parle d'un grand pervers, ils ont souvent une signature, quelque chose qui les marque dans leur existence, dans leur fantasme, et qu'ils essayent ensuite de laisser sur leur scène de crime de manière consciente ou inconsciente. Bien lui, c'était ça, c'était le coquelicot, et donc je trouvais que c'était une image assez forte dans le roman.
Il a des circonstances atténuantes, votre héros, parce que tout ça s'est mal passé, c'est un peu ça commence.
Début, oui. Oui, mais en fait, il a
les
des circonstances.
Montaigu, les Capulet. Hein,
Alors c'est un peu ça. Moi, je suis un fan. Ne me parlez pas de Shakespeare, parce qu'on va faire une émission entière dessus. Mais je trouve que tous les tueurs en série, d'une manière en générale, si on étudie leur vie, on pourrait le dire, des circonstances atténuantes, mais c'est pas si simple que ça.
Oui, parce que tout le monde ne passe pas à l'acte, donc avoir les mêmes circonstances.
Exactement.
Pas passer à l'acte.
Il faut juste rappeler, quand on dit les tueurs en série, pour la plupart, ont eu des enfances terribles, il faut juste rappeler que la plupart des gens, 99,99% des gens qui ont des enfances terribles, deviennent des gens normaux, heureusement. Et même l'inverse.
Dans le livre, le fils.
Exactement. C'est ce que je voulais mettre en illustration dans le bouquin, c'est que le grand pervers qu'on va suivre dans le roman, devient un type effroyable, et on comprend son cheminement dans son enfance, dans son adolescence. Et il a un enfant plus tard dans le roman. Et l'enfant qui, lui, malgré la vie effroyable qu'il va subir, va devenir un type bien. Ouais. C'était montrer que finalement, il n'y a pas de destin, de fatalité. Ça n'est pas lié, et ça pose la question du est-ce qu'on est mauvais ou est-ce qu'on le devient? Ben, dans ce roman-là, en tout cas, les deux solutions sont plausibles, mais je tendrais plus à dire que parfois certains êtres pendant très longtemps, j'ai pas pensé que l'homme était mauvais. J'ai juste essayé de comprendre quels étaient les liens entre la société et l'impact que pouvait avoir la société, la civilisation sur un être vivant et jusqu'à le corrompre parfois, ou en tout cas le dégrader. Parce que je pense que la civilisation, elle, parfois est complexe. Et la civilisation peut avoir des travers. Je la vois plus comme une entité mouvante. Maintenant, j'ai fait ça pendant 19 romans et là, je commence à m'attarder au principe du est-ce qu'on est mauvais? Est-ce que c'est possible de naître fondamentalement mauvais? Et je pense que parfois, dans certaines circonstances, oui, hélas, c'est
mais
possible.
En tout cas, ça vous fascine de cerner le mal. C'est-à-dire oui, d'essayer de comprendre pourquoi des gens comme John, votre héros, est attiré par le mal et oui, la volonté de cruauté, de faire de nuire.
Oui, parce que c'est une question que je me suis posée moi, adolescent. Je voulais comprendre. Le jour où j'ai découvert le principe des tueurs en série, je me suis dit, mais en fait, c'est des types où on dit que c'est des fous, mais pas du tout. 95% des tueurs en série ne sont pas des psychotiques, donc des fous. Au contraire, ce sont des psychopathes, sociopathes, ce que vous voudrez. Ce sont des gens totalement responsables de leurs actes, conscients.
Ah oui, moi, j'ai une vie tout à fait normale. Par contre, les vies sont fatigantes.
Ça se voit.
Ces gens qui ont une démarche, je voulais dire, intellectuelle par rapport à ce qu'ils font. Légitime.
Alors, ça dépend. Certains, parfois, peuvent l'avoir. D'autres sont dans quelque chose de beaucoup plus primal, dans quelque chose qui est lié à l'instinct de plaisir animal, de destruction, de sexuel. Mais je trouve que c'est assez fascinant parce que je voulais comprendre pourquoi, comment ils justifient ça, eux, dans leur tête, qui savent qu'ils sont en train de commettre du mal et qui, pire, recherchent la perversion, la destruction, la soumission de l'autre pour exprimer leur propre satisfaction. Comment est-ce qu'on justifie ça dans sa propre tête quand on n'est pas fou pour se regarder dans la glace tous les matins? Et c'est ça que j'ai voulu essayer de comprendre en m'intéressant aux tueurs en série. Et petit à petit, en dressant des portraits de tueurs en série que j'inventais, j'ai essayé de le comprendre à travers la fiction, de mettre en scène des éléments qui nous permettaient tous, à travers le prétexte du divertissement du thriller, du roman policier, pour finalement nous poser des questions à nous en tant que lecteurs et moi en tant qu'écrivain.
Mais au fond, vous n'écrivez que cela, jusqu'à présent?
Alors j'ai fait, c'est mon 20e roman, j'en ai fait en effet 14 qui sont vraiment sur ce sujet-là.
Et est-ce que vous pourriez écrire des romans un peu légers, des histoires d'amour, où tout se passe bien, où on tue personne?
C'est Marc Lévy en gros.
Oui. Où il n'y aurait pas de meurtre.
Alors j'avais en tête, quand j'ai écrit L'âme du mal, mon premier roman, j'ai dans la foulée commencé à faire les recherches, je suis parti à New York pour écrire, j'ai tout le scénario d'une grande histoire d'amour. Oui. Et puis j'ai signé mon contrat pour mon premier roman, et là mon éditeur m'a dit, mais tu voudrais pas faire la suite tout de suite de L'âme du mal? Et comme j'avais l'idée de la suite,
vous-même,
je me suis embarqué.
Vous êtes un tueur en série à votre manière.
Je suis un auteur en série.
Il tue beaucoup d'arbres.
Oui, hélas. Tant qu'on n'aura pas trouvé de solution alternative, je suis obligé de tuer des arbres. J'aimerais, c'est juste une question de temps, parce que je rêve d'écrire des pièces de théâtre, je rêve d'écrire des scénarios, je rêve d'écrire des histoires plus légères, mais c'est juste que je n'ai pas toujours le temps et que ma priorité est souvent là où j'ai une idée nouvelle, plus fraîche. Puis là, un suivant.
Oui, et puis là, vos lecteurs vous attendent. Mais j'aimerais bien savoir, les lecteurs qui viennent à vos signatures, par exemple,
ils sortent tous de prison, ils ont des longues peines.
Il y a eu Guy Georges.
Il y en a peut-être. Vous les fascinez, peut-être qu'il y a quelque chose d'assez.
Alors, pour une petite part d'entre eux, peut-être, mais l'essentiel des gens que je rencontre en dédicace sont.
Ils sont normaux.
Non, alors j'espère. Non, mais c'est surtout, ce sont des lecteurs de tout type. C'est un jour, on m'a dit, mais vos lecteurs, c'est quoi? C'est plutôt des jeunes? Eh bien, en fait, non, il y a vraiment tout type de lecteurs. Pour vous donner un exemple.
Les femmes, vous adorez.
Non, mais il y a le mal et tout ça, mais il y a du suspense aussi dans les. Enfin, voilà.
Mais ce qui marche dans mes romans, je crois, c'est ce que les gens disent, ils commencent et au bout de deux chapitres,
on peut pas le lâcher.
C'est surtout ça, ils veulent savoir.
On crie parfois, mais on lâche pas.
Mais un jour, une dame qui vient me voir en dédicace, et je me dis, cette dame-là vient peut-être me faire signer son livre pour sa petite fille, elle devait avoir vu le nez peut-être 80 ans, etc. Et je lui dis, c'est pour. Et elle me dit, mais c'est pour moi et pour ma maman qui adore vous lire. Elle a 100 ans cette année. Et vous voyez, donc en fait, il n'y a pas de lecteur type, non.
Ça fait des émotions
plus que Tintin.
Faut se méfier à cet âge-là.
On crie, mais on lâche pas, ça fait comme le tire-fesse, en fait.
Vous écoutez RTL.